Meurtre au Mont Saint-Odile. Chapitre 1. Malgré la cagoule qui lui enserre la tête, Emma distingue à travers le tissu de lin les silhouettes éclairées par les flammes dansantes de 3 torches. Elle a compté 11 personnes tout à l'heure sur l'esplanade, 12 avec elle. Une belle bande d'imbéciles. Pour choisir de marcher par une nuit de pleine lune sur un chemin aussi accidenté, les yeux bandés et les mains liées sur les pentes du célèbre Mont Saint-Odile. Elle commence à en avoir marre. Dire qu'elle a accepté ce rituel débile. Son père se ficherait bien d'elle s'il la voyait en ce moment. Comme chaque fois qu'elle pense à lui, un pincement lui serre le cœur. La petite troupe silencieuse crapahute dans le sous-bois depuis un bon moment. Au début, le jeu l'amusait. Maintenant, Emma aimerait qu'il cesse. Elle est fatiguée et elle a perdu la notion du temps. De nuit et seule, elle aurait été bien incapable de s'y retrouver. Elle n'avait pas profité de ce week-end pour visiter ce site touristique. Encore une promesse faite sur le lit d'un mort à cause d'un vieux parchemin découvert il y a plus de 30 ans. Un vieux bout de papier qui indiquerait l'emplacement d'une porte temporelle. Un trésor archéologique auquel on prête de multiples pouvoirs ici au Mont Saint-Odile et qu'elle s'est jurée de retrouver grâce au journal de bord que son père, Émile Capel, lui a légué. Vu comme ça, c'est délirant. Et pourtant, elle y croit. Ce lieu chargé d'histoire et de légendes a hanté son paternel à le rendre fou. Il répétait y avoir vu le passé et l'avenir. Un avenir si funeste qu'il en a perdu la raison. Emma, à son tour, veut voir et savoir. Alors, elle a répondu à une offre d'emploi, tout près d'ici, pour marcher dans ses pas. « Malsain !» aurait dit sa mère. « Peut-être. Malgré les « méfie-toi de ce que tu vois » et les « une porte peut en cacher une autre. » Des mises en garde qui parsèment les notes de son père, elle est prête à affronter n'importe quoi, n'importe qui, pour remonter le temps, revenir à ses 15 ans et le sauver de la folie qui l'a emporté. Des images du passé la submergent. Lui, assis à côté de son lit, lui narrant un de ces fabuleux contes dont il avait le secret. Elle, enfant attentive et émerveillée, buvant toutes ses paroles. Lorsque la fin de l'histoire approchait, elle se redressait et lui posait un tas de questions pour retarder son départ. Son père répondait toujours aux 2 premières, puis, après un sourire entendu, il l'embrassait tendrement sur le front. Ils étaient si proches tous les deux, si complices. Elle a été surprise en découvrant les participants déguisés et masqués sur l'esplanade de l'ancienne chapelle, lieu du rendez-vous. Certains portaient même un sac à dos de taille impressionnante. Jeff, le président du club, l'avait bien averti qu'il fallait garder un anonymat total pour que le rite soit valable. Mais de là à se travestir, et que pouvaient bien contenir ces gros sacs? Elle s'est néanmoins pliée au jeu, et apparemment le style préhistorique était de mise. Elle a dû retirer son anorak préféré, le vert kaki avec un mignon panda brodé sur la poitrine, qu'un des membres a fourré dans son sac avec sa lampe de poche, puis elle a dû revêtir une espèce de peau de bête. Heureusement, ce début octobre est d'une douceur incroyable. Un peu angoissée, elle s'est attachée à reconnaître les voix. Comme chacun y allait de sa boutade, imitant et jouant les hommes du néolithique, l'ambiance était plutôt détendue. Elle a réussi à identifier Gary, un chic type aux allures de bûcheron ténébreux, doux comme un agneau. Elle l'avait repéré grâce à son imposante stature, sans en être vraiment sûre. Maintenant, c'est bon. Elle sait que c'est lui. Il lui semble aussi que la voix éraillée est celle de Missy, une quinquagénaire qui fume comme un pompier. Elle en était encore à chercher des indices sonores quand ils l'ont bâillonnée et cagoulée. Elle a voulu protester lorsque, d'un ton péremptoire, une voix a affirmé que sans cela, ils arrêtaient tout et chacun rentrait chez soi. Du coup, elle n'a pas osé s'y opposer. Elle n'en était pas entièrement convaincue, mais le timbre guttural lui rappelait celui de Jeff, le président du club de randonnée. Elle s'attendait à une nuit un peu particulière, mais à cette heure-ci, tout ce chichi lui paraît exagéré, relevant plus du bizutage que du rituel. Emma manque une nouvelle fois de tomber en trébuchant sur un rocher. Ne pouvant signifier son désagrément, elle s'énerve, pousse des grognements et se met à gesticuler pour échapper aux mains qui la retiennent par le bras. Autour d'elle, la petite troupe s'agace. Emma perçoit l'attention qui s'accroît parmi les adeptes de cette marche nocturne lorsque la voix autoritaire intervient enfin. «
Nous y sommes.
Une joyeuse cacophonie s'élève en même temps que des applaudissements. Le baillon et la cagoule lui sont ôtés et ses mains sont déliées. Pour se donner une contenance, elle recoiffe ses longs cheveux noirs, puis découvre enfin l'endroit. Ils se tiennent sur un promontoire au-dessus de la vallée. « Bravo Emma !» s'écrie Gary, qu'elle gratifie d'un sourire timide.
« Admire ce ciel !» reprend Jeff. « C'est une nuit claire, exceptionnelle pour voir les étoiles. On se trouve sur le point le plus haut de ce site millénaire, à 817 mètres exactement. Un lieu et une contemplation réservés à quelques initiés dont tu fais partie maintenant.
C'est magnifique, je trouve pas les mots. » Le souffle coupé par l'émotion, Emma le remercie et scrute le paysage. En contrebas, quelques points lumineux laissent deviner à un mot éloigné. Pendant ce temps, victuailles et boissons sont tirées de divers sacs à dos. Un feu de camp est allumé. Faire partie d'une association de randonneurs, ça se mérite. Installée à Hautrott depuis quelques mois et native du sud de la France, elle ne connaissait personne, mais elle a toujours aimé marcher. Elle se félicite d'avoir rejoint ce collectif. Elle espère bien leur soutirer des informations sur les endroits les plus secrets du monde.
Nous sommes à Mannelstein, lui explique Jeff, un mirador naturel qui domine la plaine d'Alsace. Il y a aussi une table d'orientation, mais de nuit, les indications ne servent pas à grand-chose. Il faudra que tu reviennes de jour pour vraiment admirer le paysage. On aurait pu aussi se rendre au Rocher du Panorama, qui offre une vue sur les ruines de l'abbaye de Niedermünster et la chapelle Saint-Nicolas.
Sauf que même si la nuit est claire, intervint Gary, on les distingue à peine dans la pénombre. Le président acquiesce avant d'ajouter
« Eh bien justement, elle aura d'autant plus envie de découvrir la terre de nos aïeux. Tu vois Emma, on choisit toujours ce site pour les nouveaux, parce que nos ancêtres venaient déjà s'y recueillir. »
« Ici, tu ressens le poids des siècles !» s'écrie une trentenaire aux cheveux bouclés et au visage poupin. Emma se souvient d'elle. C'est Alicia. Elle l'a rencontrée lors de sa toute première randonnée dans les Hautes-Vosges, le premier week-end de septembre.
« Tu comprends mieux nos déguisements, maintenant ?»
Les hommes préhistoriques scrutaient déjà ce paysage, Emma. « Allez, on te laisse imprégner de cette atmosphère ancestrale, » dit Jeff, entraînant ses deux acolytes avec lui.
Le trio se retourne près du feu. Après quelques longues minutes de contemplation, la jeune femme soupire. Tout ça pour ça. Ce cérémonial, cette marche en pleine nuit, vêtue de peau et de masque, c'est un peu excessif, voire un peu con. Un simple prétexte pour faire la java. Lors d'une de ses visites, elle avait choisi de faire le tour du mur païen dont son père lui parlait si souvent. Elle était passée par là avec son guide, elle reconnaît la table d'orientation. Elle n'a pas osé le leur dire. Un vague sentiment de déception l'étreint. Elle abandonne le parapet de protection en fer qui court le long du précipice et se tourne vers le groupe qui festoie près du foyer. Des flammes, que Jeff et Gary maîtrisent parfaitement, s'élancent vers le ciel et éclairent les participants qu'elle peut observer plus attentivement. Elle avait vu juste pour Missy. L'incorrigible fumeuse est bien là, la clope au bec. Hormis Jeff, Gary et Alicia, elle ne connaît pas les autres ou ne se souvient pas d'eux. De plus, après avoir mangé et bu rapidement, quelques membres ont déjà renfilé leurs masques pour danser autour du feu. Difficile donc de les identifier. En tout cas, ils sont tous là, 12 individus gesticulant autour du foyer.
12 ? Impossible !
Elle a dû compter deux fois la même personne. Elle recompte pour s'en assurer. 12 et avec elle, 13. C'est bien ça. Apparemment, un nouveau venu s'est joint au groupe. Elle aperçoit Gary assis près du feu, qui arbore fièrement un verre plein à ras bord et éclabousse généreusement ses voisins. Il saura peut-être la renseigner.
« Emma, viens » crie-t-il. « On doit trinquer à ton intégration dans le clan !»
Elle acquiesce, mais elle ne peut s'empêcher de compter une nouvelle fois les participants. Et surprise, ils ne sont plus que 11. Interdite, elle scrute les alentours pour vérifier que l'un d'entre eux ne s'est pas écarté. Elle recompte deux fois avant de se traiter d'imbécile. Elle s'est trompée, voilà tout.
« Allez Emma, viens voir un coup !» hurle maintenant Gary. « C'est toi la reine de la fête !»
Elle sourit enfin et abandonne le promontoire et sa table d'orientation avec une dernière pensée pour ses parents. Dès que sa mère a été enterrée, Emma n'a pas hésité une seconde. Elle a quitté le Sud et ses années douloureuses pour commencer une nouvelle vie, ici, sur les traces de son père. Et même si elle a le sentiment qu'il désapprouverait cette mascarade, elle compte bien en profiter. Après tout, reine d'un soir sur le célèbre Mont-Saint-Odile, ce n'est pas pour lui déplaire. Chapitre 2. Vautrée dans le canapé du salon, toutes lumières éteintes, Atam observe le ciel à travers la fenêtre. Une belle nuit de pleine lune, sans nuages. Une nuit comme elle les aime, constellée d'une myriade d'étoiles à contempler. Elle scintille comme un appel lointain. Elle se sent bien chez son compagnon à Nancy. Son appartement, rue Bormeau, est bien mieux situé que le sien à Metz. Chez elle, quelle que soit la fenêtre, elle ne voit que des façades lugubres. Ici, son regard peut errer sur l'horizon. Simplement vêtue de son grand t-shirt, elle finit par avoir froid. Un bruit dans la chambre retient son attention. Espérant qu'elle n'a pas réveillé Thomas, elle sourit en se remémorant leur soirée. Comme d'habitude, ils ont d'abord grignoté en buvant un bon vin, sans atteindre le dessert. Avec ses beaux yeux bruns ténébreux et cette petite moue d'enfant qu'il arbore quand il la désire, elle craque toujours. Et même si parfois Thomas lui reproche de n'être avec lui que pour suivre ses enquêtes ou pour le sexe, elle sait au fond d'elle-même que ce n'est pas pour sa fonction qu'elle l'apprécie. Elle reconnaît que côtoyer un inspecteur de police et son équipe, c'est une réelle chance pour la détective qu'elle est. C'est vrai qu'elle préfère les affaires criminelles aux histoires d'escroquerie, de couple et d'adultère. Elle n'a pas été flic pour rien. Certes, elle a tendance à s'immiscer dans leur travail, mais c'est pour leur prêter main forte. Les investigations et la recherche de la vérité, elle a toujours aimé ça. Le sexe aussi. Finalement, son compagnon a peut-être raison. Elle soupire. De toute façon, c'est plus fort qu'eux. Dès qu'ils sont seuls dans la même pièce, leurs sens prennent le dessus. Depuis qu'ils se connaissent et se retrouvent régulièrement chez l'un ou chez l'autre, elle ne se souvient pas d'avoir mangé le dessert à la suite du repas. Dans la nuit, au petit matin ou au petit déj, oui, mais jamais avant. Soudain, la lumière l'éblouit. Atam sursaute, surprise. « À quoi tu joues à rester dans le noir comme ça ?» demande Thomas d'une voix pâteuse. « Tu médites ?»«
Je ne trouve pas le sommeil, » avoue-t-elle. « J'ai préféré me lever plutôt que de t'importuner. »
Emmitouflé dans sa robe de chambre bleu marine, il se laisse tomber à côté d'elle en bâillant.
« Et toi ?» ajoute-t-elle. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu dors comme un loir d'habitude ?»
Il hésite, secoue la tête pour remettre ses idées en place, et il finit par maugréer.
« J'ai fait un rêve bizarre. Un avion écrasé au sol. Pas un cri, rien. Juste des flammes immenses qui crépitaient, suintaient, soufflaient. Ça m'a réveillé. Ça avait l'air si réel. J'ai même ressenti la chaleur du feu. »
Akam dévisage son compagnon d'un œil sceptique. Ce n'est pas le genre à s'écouter. Pourtant, ce cauchemar semble l'avoir quelque peu bouleversé.
« Je sais que ce n'est qu'un rêve, » précise-t-il avec un sourire. « J'ai dû entendre ou voir quelque chose à ce sujet. »
« Tu côtoies trop janvier, » suggère Akam en songeant au récit macabre du médecin légiste.
« Peut-être bien. Ils sont partis, lui et Maggie, pour un week-end en amoureux, au Mont-Saint-Odile. »«
Et il y a quoi là-bas pour les amoureux ?» ironise-t-elle.
« C'est un monastère, non ?»«
Mais oui, c'est ça, » s'écrie-t-il soudain. « Je sais d'où vient ce cauchemar. » On a évoqué la catastrophe. Tu sais, l'accident d'avion.
Oui, je m'en souviens. Attends, ça s'est passé en janvier 1992, non?
Oui. Un Airbus A320 s'est écrasé dans la forêt. Il venait de Lyon et s'apprêtait à atterrir sur l'aéroport de Strasbourg.
Une erreur humaine?
Oui.
Tu penses bien que janvier m'a tout expliqué en long, en large et en travers.
C'est une encyclopédie ambulante, ce type, commente Akam en se marrant. Son compagnon ne relève pas, perdu dans ses pensées.
« Alors, que s'est-il passé exactement ?» demande-t-elle devant sa mine sombre.
« D'après ce que j'ai compris, c'est une mauvaise exécution de l'approche de la piste. En fait, il y a eu mésentente entre les pilotes et la machine. La désactivation des systèmes d'alerte de proximité du sol a été fatale. Elle a contribué au crash. »«
Janvier a perdu quelqu'un dans l'accident ?»«
Non, pas du tout. Mais tu le connais. Dès qu'un sujet le passionne, il l'étudie sous toutes ses coutures. »«
Je ne sais pas comment il fait pour te retenir. » marmonne Akam,
qui ne s'encombre l'esprit que des indices nécessaires à une enquête, le morbide n'étant qu'accessoire.
Chapitre 4.
Tu fais quoi, Maggie? Dépêche-toi un peu. On rate les commentaires de Max.
Elle rejoint rapidement Edouard, qui lui jette un regard agacé, et lève sur lui ses grands yeux noisettes.
Des yeux de biche,
lui a-t-il déjà dit. Maggie l'aime tant. Avec son éternel tignasse roquine et bourriffée, ses yeux bleu-gris, son air préoccupé, son allure de professeur tournesol et ses termes savants, Edouard la fait toujours craquer. Encore plus maintenant, en jean et en parka bleu, une tenue qui le change de sa sempiternelle blouse blanche maculée de sang.
Il commence à faire chaud, dit-il en ouvrant son manteau. Comment peux-tu garder ton anorak sur le dos?
Elle s'exécute et attache son vêtement autour de la taille. Edouard l'invite gentiment à passer devant lui. En la forçant à avancer un peu plus vite, il espère rattraper leur petit groupe. Ils ne sont que quatre touristes pour cette visite matinale. Un avantage certain pour bavarder avec le guide. Maggie sourit de bonheur. Son fiancé est le meilleur légiste de la région. Et puis ces 3 jours de retraite dans le monastère du Mont-Saint-Odile qu'il lui offre, un lieu remarquable, avec une vue panoramique indescriptible. Ni l'un ni l'autre ne sont croyants, mais Edouard lui a fait gentiment comprendre que ses parents le sont. Elle a aussitôt imaginé qu'il allait enfin sauter le pas et lui faire une demande officielle. Un mariage à l'église? Pourquoi pas, si ça peut faire plaisir à sa famille. La sienne n'a aucun préjugé.
Stop! Changement de cap! S'écrie soudain le guide. Nous allons nous éloigner du mur pour nous rapprocher des tombes mérovingiennes. Attention, vous mettez les pieds, ce sentier est plein de nids de poules.
Surprise par l'arrêt brusque du groupe, Maggie manque de foncer dans la personne devant elle. Elle perd l'équilibre et se raccroche in extremis à la manche de son compagnon.
Hé, doucement, bougonne Edouard. Qu'est-ce que tu fais encore? Tout le monde nous regarde.
Confuse, Maggie se redresse, les joues rouges, un sourire en guise d'excuse sur les lèvres.
Désolée.
Edouard est sûr des sentiments de Maggie à son égard. Elle l'aime. Mais lui, où en est-il? Les deux autres touristes ont déjà emboîté le pas quand le guide, doté d'un fort accent vosgien, reprend ses explications.
Je vous disais donc que le mystère de la construction du mur païen n'est pas encore élucidé. Il faut cependant admettre qu'une partie a été aménagée ou réparée du temps des Mérovingiens entre le 5e et le 8e siècle de notre ère.
Ce ne sont plus les petits hommes verts,
lance en ricanant un quinquagénaire barbu. Le guide s'arrête net.
Enfin, bien sûr que non,
intervient une petite bonne femme emmitouflée dans un manteau de fourrure synthétique.
C'est n'importe quoi!
Seule sa bouche peinte en rouge et le bout de son nez dépasse de la capuche poilue qui lui recouvre la tête. Elle ajoute d'un air contrarié
« Vous n'avez rien suivi, vous, c'est... »« Ce massif a été occupé depuis le néolithique, »
la coupe Max d'une voix autoritaire.
« On a retrouvé des silex et des haches en pierre polie. On a aussi un mobilier abondant datant de l'âge de bronze. »«
Des meubles ?» s'enquiert le barbu étonné.
Par mobilier, on sous-entend des objets, des bijoux ou des armes fabriquées à cette époque,
rétorque alors Edouard d'un ton professoral.
Exact, confirme le guide. Ces découvertes établissent que le site était d'importance à ce moment-là. Des hommes préhistoriques y ont vécu, mais ça ne prouve pas qu'ils ont construit ce mur.
Je le sais,
convient la professeure d'une voix pincée.
Mais puisqu'on l'appelle le mur païen, on peut penser qu'il a été construit par des païens.
Max lève la main pour intervenir.
Je vous arrête tout de suite. Ce mot n'avait pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Rien à voir avec des païens, c'est-à-dire des non-chrétiens. On attribuait l'adjectif païen à toute construction dont la présence était immémoriale. Déjà à cette époque, on n'avait aucune idée de la date de son édification.
On en revient à une origine bien plus vieille que celle des Mérovingiens, insiste Maggie d'un ton malicieux. C'est vous qui venez de le dire.
Et qu'est-ce que vous faites de la thèse des druides et des forces magnétiques?
Intervient encore l'enseignante.
Il y a des gens très sérieux qui ont établi que ce lieu est en fait le centre d'une pile électromagnétique. De nombreux menhirs et dolmens ont été recensés sur le mont Saint-Odile.
Ouais, rétorque le guide vosgien, dont l'accent s'amplifie au fur et à mesure que sa patience diminue. Oui, les druides venaient sur le site.
C'est vous qui en avez parlé dans le grand champ qu'on a traversé au début de la randonnée, souligne la prof agacée.
La grosse mat.
Vous avez mentionné un cercle mégalithique découvert depuis peu.
Ça prouve seulement qu'un temple solaire aurait pu se trouver là.
On en revient toujours au soleil, à la lumière et aux astres, ironise encore Maggie. Alors, pourquoi pas l'énergie?
Je connais cette théorie, bougonne Max. Le monastère est bâti sur un point culminant qui a très souvent attiré la foudre, provoquant régulièrement des incendies. Il a été abandonné puis reconstruit maintes fois, et on en a la preuve dans de nombreux écrits.
C'est ce que je disais, reprend la prof d'histoire. La foudre, c'est de l'énergie électrique. Et pourquoi croyez-vous qu'on évoque une pile, hein?
La foudre, ça ne suffit pas, s'exclame Édouard, soudain intéressé. J'ai étudié moi-même ce phénomène complexe. Certains géobiologistes et radiesthésistes évoquent la présence d'un puissant réseau magnétique dont le centre serait à l'exact emplacement de la chapelle des rochers.